Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment et pourquoi vous effacer de l'Internet? Un texte d'Alain McKenna, paru le 11 décembre 2024 dans la presse. Il ne s'échange pas que de l'argent sur Internet durant la période des fêtes. Vos données sont aussi très prisées, et pas seulement celles que vous pensez. Il y a 25 ans, des firmes spécialisées créaient à partir de sondages et de groupes de discussion des profils de consommateurs à des fins de marketing. Grâce au numérique, ces firmes sont devenues des courtiers de données et ajoutent à leur profilage tout ce qu'elles peuvent tirer de l'Internet. Des chercheurs en sciences politiques de l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique, ont déjà documenté le fonctionnement des courtiers de données canadiens. Et ils étiquettent les gens selon leur code postal, leurs habitudes d'achat et leur activité en ligne. Ainsi, si vous demeurez dans l'île de Montréal, vous pourriez faire partie du beau monde, des gens jeunes et actifs ou de la fierté grise, entre autres. Au-delà du ciblage publicitaire, ces chercheurs s'inquiétaient d'un usage abusif de ces étiquettes, puisqu'elles amalgament aussi des données sur le comportement criminel, la religion, la confiance envers les autorités et la cote de crédit. On a su en 2018 comment ces données pouvaient être utilisées de façon abusive lors du scandale entourant Facebook et la firme Cambridge Analytica. Il y a un mois, le service de sécurité en ligne, NordVPN, a rappelé que ce phénomène n'a pas disparu. L'anonymat n'est plus un luxe, mais une nécessité, conclut le directeur technique de NordVPN, Marijus Bridis. Les gens veulent naviguer sur l'Internet sans laisser de traces, sans être suivis ni qu'on dresse leur profil. Des empreintes durables. Des traces, on en laisse de plus en plus sur l'Internet. L'information la plus évidente, remise souvent sans y penser au cyberdétaillant, est son adresse courriel. La plupart des sites de magasinage offrent un rabais qui peut aller de 10 à 25% sur un premier achat, simplement si vous acceptez de vous abonner à leurs infolettres. Ce serait fou de refuser. Ces adresses valent cher. Avec les textos, c'est la forme de communication numérique la plus intime avec les consommateurs. D'ailleurs, des détaillants demandent de plus en plus souvent les deux, un courriel et un numéro de téléphone mobile, avant d'accorder le rabais à l'achat promis lors d'une première visite sur leur site. Selon certaines études, chaque nouvel abonné à une infolettre publicitaire vaut entre 15 et 20 $ environ. C'est, en gros, la somme qu'ils auraient à investir pour le rejoindre autrement. Si, en plus, vous procédez à un achat, vous confiez ensuite au détaillant vos données de paiement. Le site vous offrira de mémoriser cette information pour accélérer vos achats suivants. Cela vaut aussi de l'or, puisque cela augmente le potentiel de vous transformer en un client assidu pour le cybercommerçant. Sauf que c'est une autre empreinte de votre passage sur l'Internet qui ne s'effacera pas de sitôt. Brouillez les pistes. Ces renseignements personnels, quand une entreprise est victime d'une fuite de données, sont le genre d'informations que les pirates souhaitent justement dérober. Ces données alimentent des campagnes d'hameçonnage pendant des années. On a vu au cours des derniers mois des envois aux couleurs de grandes banques canadiennes qui étaient une arnaque et qui ont piégé même des internautes parmi les plus scrupuleux. Ça inquiète évidemment tout le monde. NordVPN calcule que 41% des internautes canadiens en sont conscients au point où ils aimeraient pouvoir effacer de l'Internet tous leurs renseignements personnels. S'effacer de l'Internet, c'est difficile, mais pas impossible. Se désinscrire des infolettres publicitaires et supprimer vos comptes sur les sites web que vous ne consultez plus est un premier pas. Idéalement, vous ne devriez pas non plus enregistrer vos données de paiement sur les sites de magasinage en ligne auxquels vous ne faites pas entièrement confiance. Cela comprend tous ces sites éphémères qui liquident des produits de marques inconnues. certains outils de navigation brouillent aussi vos pistes. Un moteur de recherche ou un navigateur web comme ceux de DuckDuckGo ou un service VPN comme Proton vous protégeront du pistage en ligne. Parce que cela prend du temps. Et que le temps, on le sait, c'est de l'argent. Il s'est développé au fil du temps un marché autour de la suppression de données. On trouve au moins une douzaine de ces services de suppression de données sur l'Internet. OneRep, PrivacyBee, le HIC. La plupart ne sont pas offerts au Canada. Sauf deux, Incogni et DeleteMe. Ils ne sont pas donnés, mais ils sont parmi les meilleurs services en leur genre. Ces services web retirent votre information des listes d'envoi des détaillants, des régies publicitaires et des courtiers de données. Ils assurent qu'ils insisteront même à répétition auprès des sites et des courtiers réticents. Ironiquement, ces services d'effacement vous donneront un rabais sur l'abonnement si vous vous inscrivez à leur infolettre. C'était « Comment et pourquoi vous effacer de l'Internet », un texte d'Alain McKenna, paru le 11 décembre 2024 dans La Presse.
Quels ont été les livres les plus lus à la Grande Bibliothèque en 2024? Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir. À l'approche de la fin d'année 2024 et pour une septième fois de suite, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, présente son désormais classique palmarès des œuvres les plus empruntées par ses abonnés. Chez les adultes, les romans et les bandes dessinées d'ici continuent de se faire une place de choix au classement. Pour ce qui est des enfants, ce sont des romans classiques, surtout américains, qui remportent le plus de couronnes. BANQ propose des classements distincts pour les livres numériques et, pour la première fois cette année, les livres audio-numériques. L'organisation juge d'ailleurs que ces palmarès comportent peu de grandes surprises. Des œuvres primées et des valeurs sûres les composent. L'un des livres les plus récompensés de 2023, Triste tigre de l'autrice française Neige Sinnot, se hisse ainsi au sommet de la liste des romans papier. Au total, 10 auteurs québécois se retrouvent dans le top 20 de cette catégorie. C'est notamment le cas de « Que notre joie demeure », le deuxième le plus emprunté de 2024. En 2023, le roman qui a valu à Kev Lambert le prix Médicis 2023 avait été le roman le plus emprunté à la Grande Bibliothèque. Jean-Philippe Plou, Michel Jean et Mariana Mazza font partie des auteurs québécois du palmarès. Outre les romans papier, les œuvres québécoises ont également la cote du côté des bandes dessinées. 11 titres d'ici se trouvent au top 20. En tête de liste se trouve « Rosalille » de Michel Rabagliati. Se situant entre le roman et la BD, le livre se serait aussi taillé une belle place dans le palmarès des romans, où il aurait occupé le second rang, note BANQ. Poursuivant l'élan de popularité que la série maintient depuis les débuts du palmarès il y a 7 ans, les 6 tomes de « L'Arabe du futur » du franco-syrien Riyad Satouf se retrouvent dans les 20 bandes dessinées les plus empruntées, comme ce fut le cas en 2023. Les responsables de la Grande Bibliothèque parient même que le premier tome de « Moi, Fadi, le frère volé », la nouvelle série de l'auteur, publiée en octobre 2024, se taillera une place dans le palmarès de 2025. Du côté des livres numériques en français, l'écrasante majorité sont des romans et plusieurs titres, comme « Que notre joie demeure », figurent aussi sur la liste des romans papier. Un type de livre ressort, cependant, parmi les 20 titres les plus empruntés électroniquement, 10 sont des livres de suspense ou des récits policiers. Pour expliquer la popularité de ce genre littéraire particulier dans ce format précis, BANQ ne peut qu'avancer que plusieurs personnes lisent des romans policiers en vacances, occasion où la lecture numérique est particulièrement pratique pour des raisons de poids et d'espace. Pour les livres audio numériques en français, ce sont les histoires d'amour qui ont la cote, avec pas moins de 5 livres de la romancière américaine Colleen Hoover et 2 de sa compatriote Anna Wong. À noter qu'aucun livre québécois n'intègre cette liste, qui est composée majoritairement d'ouvrages traduits de l'anglais et de livres d'auteurs français. À la grande surprise de BANQ, aucun guide de voyage ne figure dans le palmarès des documentaires, essais et biographies sur papier les plus empruntés. La philosophie, la politique, la sociologie, la psychologie et les finances personnelles ont particulièrement intéressé les lecteurs de non-fiction. Le labyrinthe des égarés, l'Occident et ses adversaires du franco-libanais Amin Malouf se hisse à la première place, suivi de l'Odyssée du Sacré. La grande histoire des croyances et des spiritualités des origines à nos jours du philosophe Frédéric Lenoir, dont 2 autres livres se retrouvent également au classement cette année. Chez les jeunes, Harry Potter continue d'être populaire chez les jeunes. 3 titres de la série sont parmi les 10 premiers de la liste. Mention spéciale à Harry Potter et la Coupe de Feu et Harry Potter à l'école des sorciers, qui sont respectivement 1er et 2e du palmarès. Les aventures du jeune sorcier ne sont pas les seuls romans de J.K. Rowling appréciés par les jeunes. L'Ichabod se retrouve également en 5e position. Le Petit Prince est aussi encore présent à la 3e position du classement et la série des Journaux d'un dégonflé de l'Américain Jeff Kinney continue d'être aussi populaire. Quoique moins populaire que chez les adultes, des livres québécois comme Quincaillerie Méville d'Alexandre Côté-Fournier et Geneviève Biguet et des tomes de la série des Lucie la Moufette qui pète parviennent à se hisser dans le classement. Pour les bandes dessinées destinées aux enfants, outre le retour de la gaffe du bédéiste québécois Delaf, 3e place, l'entièreté du palmarès est réservée à différentes aventures d'Astérix. Les enfants sont-ils à ce point mordus de l'univers d'Uderzo et de Goscinny? Où peut-on émettre l'hypothèse que certains adultes nostalgiques contribuent à faire augmenter l'emprunt des aventures des Gaulois? Se demande la bibliothèque. Le dernier tome de la série, L'Iris blanc, de Fab Caro et Didier Conrad, daté d'octobre 2023, parvient à être 1er au classement. Au-delà des livres, la BANQ ne recense pas que l'emprunt des livres. Il y a aussi les CD de musique, les films, les jeux vidéo et les jeux de société. En musique, les CD des Cowboys Fringants ont connu beaucoup d'emprunts, ce qui n'est pas nouveau pour le groupe. Le décès du leader Carl Tremblay a certainement donné à plusieurs l'envie de découvrir ou de revisiter l'œuvre du groupe, indiquent les responsables de la Grande Bibliothèque. Taylor Swift, les Beatles et Daniel Bélanger marquent pour leur part le podium de cette catégorie. Pour les films, ce sont 3 titres nommés aux Oscars qui sont les têtes d'affiche du classement. Oppenheimer de Christopher Nolan, Tar de Todd Field et Barbie de Greta Gerwig. Une preuve que le phénomène Barbenheimer s'est transposé à la bibliothèque. Aucun film québécois se trouve dans le palmarès, mais, à l'instar de Tar, certains films d'auteurs se sont hissés parmi les succès hollywoodiens, note BANQ. Jeux de danse, d'aventure ou de rôle, la variété règne dans l'emprunt de jeux vidéo à la Grande Bibliothèque où Just Dance 2021 et Hogwarts Legacy règnent. Pour les jeux de société, les jeux d'évasion et d'énigmes ont été particulièrement populaires, autant chez les jeunes que les moins jeunes. C'était « Quels ont été les livres les plus lus à la Grande Bibliothèque en 2024 ?» un texte de Léo Mercier-Ross paru le 11 décembre 2024 dans Le Devoir.
Pourquoi on voit des écoliers en couches? Un texte d'Ariane Blais-Lacombe, paru le 11 décembre 2024 dans la presse. Dans un dossier récemment publié dans la presse sur la perte d'autonomie des enfants dans les écoles primaires, les écrans me semblent montrer du doigt à juste titre pour expliquer le phénomène observé, à une exception près, le retard dans l'apprentissage de la propreté. Fondatrice du Petit Pot plus tôt et maman de 4 enfants, Ariane Blais-Lacombe témoigne. En effet, je ne vois pas de lien direct entre l'augmentation du temps d'écran et le fait que les enfants portent des couches de plus en plus tard. En tant qu'instructrice d'éducation à la propreté, je suis aux premières loges de cette tendance qui consiste à attendre encore et toujours plus avant de commencer l'apprentissage de la propreté. C'est l'enfant qui décide. Dans les années 1960, un pédiatre américain, le Dr. Terry Brazelton, a publié une étude qui a révolutionné le domaine du « potty training » en suggérant une approche menée par l'enfant. Selon lui, c'est l'enfant qui doit décider quand il commence l'apprentissage de la propreté. Les parents doivent attendre que leur bambin soit prêt, même si les spécialistes ne s'entendent pas sur ce que « prêt » veut dire. Certains dénoncent plutôt cette approche en faisant valoir qu'il s'agit d'un concept non fondé scientifiquement. N'empêche que le message a été adopté et est maintenant diffusé par les médecins, les éducatrices. Les parents ne pensent pas que c'est à eux à mettre en branle l'apprentissage de la propreté, mais qu'ils doivent attendre que leur enfant se décide à être propre. Ils se font dire aussi que, quand l'enfant choisira par lui-même, ce sera simple. Si c'est compliqué, c'est parce qu'ils ont commencé trop tôt ou qu'ils sont allés à l'encontre de leur enfant. On leur dit donc d'arrêter et d'attendre. La faute des couches jetables. C'est quand même plus facile d'attendre et de laisser notre enfant en couche pendant 2, 3, voire 4 ans depuis que nous avons la commodité des couches jetables. Le Dr. Brazelton l'a bien constaté. C'est pourquoi il a accepté de faire financer ses recherches par Pampers, allant même jusqu'à apparaître dans une publicité télévisuelle faisant la promotion des nouvelles Pampers taille 6 pour les grands-enfants qui portent toujours des couches. Dans le temps de nos grands-mères, qui étaient à la maison et qui lavaient des couches à la main, les enfants étaient propres beaucoup plus tôt. En 1957, 92% des petits Américains étaient propres à 18 mois. Avec la commercialisation des couches jetables et l'adoption des idées du Dr. Brazelton, l'âge moyen de l'acquisition de la propreté est passé à 3 ans en 1999. J'ai de bonnes raisons de croire que cela a encore augmenté dans les 25 dernières années. Pas de retour en arrière. La physiologie des enfants a-t-elle changé au cours des dernières décennies? Bien sûr que non. Plutôt que se demander si leur enfant est prêt, j'encourage les parents à se demander si leur enfant est capable. La réponse est généralement oui. Ceux qui ne sont pas prêts, ce sont les parents. Ils ne savent souvent pas comment faire. Ils associent un apprentissage précoce de la propreté, disons avant 3 ans, avec les anciennes méthodes coercitives qui consistaient à laisser les enfants sur le pot pendant des heures ou à punir les petits qui avaient le malheur de faire pipi dans leurs pantalons. Je ne plaide pas pour un retour de ces pratiques néfastes et condamnables. Nous possédons aujourd'hui des méthodes efficaces, sûres et bienveillantes pour initier nos enfants à l'utilisation du petit pot en toute autonomie. Pour réduire la pollution causée par les couches, pour développer l'autonomie de nos enfants et par respect de leur dignité, il est grand temps de renverser notre tendance à retarder l'âge de l'apprentissage de la propreté. C'était « Pourquoi on voit des écoliers en couches », un texte d'Ariane Blais-Lacombe, paru le 11 décembre 2024 dans La Presse.
Protéger les martinets ramoneurs, une cheminée à la fois. un texte d'Ariane Kroll, paru le 22 avril 2024 dans La Presse. Près de 90 % de la population de Martinet-Ramoneur a disparu depuis les années 1970 au Canada. Pour éviter que leur petit nid établi dans des cheminées ne soit détruit par mégarde, le zoo de Granby et des organismes de conservation sensibilisent les services de ramonnage. Début mars 2024, deux entreprises de ramonnage actives dans la région de Granby ont participé à un atelier du zoo. On essaie d'aller chercher leur expertise en tant que spécialiste de la cheminée et d'ajouter un volet sensibilisation à leur travail parce que souvent, ils ne connaissent pas l'oiseau qui est brun et ressemble à tous les autres, explique la biologiste Audrey Ménard, chargée de projets en conservation au zoo de Granby. Cet oiseau migrateur, qui revient au Québec entre la fin d'avril et le début de juin, est reconnaissable à ses ailes arquées en forme de boomerang et à sa courte queue. Les cheminées prisées. Si l'espèce nichait autrefois dans des arbres creux, elle a depuis longtemps adopté les cheminées des maisons et des grands bâtiments. La cheminée doit offrir un matériau rugueux, briques, pierres, béton, etc., et être assez spacieuse, ouverture d'au moins 28,5 cm en diagonale ou largeur extérieure de 45 cm. Or, beaucoup de ces cheminées industrielles, institutionnelles ou résidentielles ont été détruites ou recouvertes d'un chapeau ou d'un grillage. Moins de 1000 sont actuellement répertoriés comme étant utilisés par le Martinet Ramoneur dans l'ensemble de la province, indique l'organisme Québec Oiseaux. Les martinets revenant généralement nichés dans les mêmes cheminées, il est important d'en préserver l'accès. La formation du zoo est un outil extraordinaire pour savoir comment ils font là leur nid et comment le reconnaître. On en a touché un dans nos mains. C'est exceptionnel! S'enthousiasme Julien Labonté, franchisé de Ramonnage 4 saisons à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Martinet Ramoneur, c'est notre petit cousin et quasiment familial. Illustre Clara Toscani, copropriétaire de Ramonnage Jovane à Coansville. On ne peut pas faire autrement que de l'aider. Ça va nous faire plaisir. Lorsqu'une cheminée est utilisée par des martinets, il ne faut pas y faire de ramonnage ni de travaux entre le 1er mai et le 1er septembre, afin de ne pas nuire à la nidification. Si les ramoneurs en repèrent une sur le territoire de la MRC, de la Haute-Yamaska, qui inclut Granby, ils sont invités à contacter le zoo qui ira rencontrer les propriétaires. Au début, ça fait peur parce que les gens n'aiment pas beaucoup apprendre qu'ils ont des animaux dans leur cheminée. Mais quand on leur explique, qu'on leur montre un vrai nid et des photos, ils sont émerveillés par le petit oiseau, dit Audrey Ménard, chargée de projets en conservation au zoo de Granby. Répertorier les cheminées. C'est ce qui est arrivé à Anne-Marie Turenne-Fouquet, une résidente de Granby, qui était à la maison avec ses enfants lorsque Mme Ménard est passée chez elle durant la semaine de relâche. Dans son cas, c'est un bénévole qui avait vu des martinets autour de sa cheminée l'été précédent. En ouvrant une trappe d'accès, ils ont trouvé le nid tombé à la fin de la saison. Les enfants étaient tout excités de voir que c'était vrai, raconte Mme Turenne-Fouquet. Les nids, minuscules, ne posent pas de risque pour la cheminée. Donc, nous, on n'a rien à changer. Nous sommes seulement des hôtes pour les oiseaux. Le zoo de Granby n'est pas seul. L'organisme Connexion Nature et la ville de Mont-Saint-Hilaire ont déjà répertorié une trentaine de cheminées dans leur région et Connexion Nature veut former des ramoneurs pour en repérer davantage. On a fait des demandes de financement et on est en attente de réponse. Ce serait 4 entreprises, un potentiel de 300 à 400 cheminées, indique la responsable de l'engagement des communautés, Geneviève Poirier-Guiss. Québec Oiseau, qui a fait de la sensibilisation auprès des ramoneurs dans le passé, a publié plusieurs fiches d'information sur son site. Et l'Association des professionnels du chauffage, APC, qui compte 260 entreprises membres au Québec, a souvent rappelé l'importance de préserver l'espèce. Cette année, l'APC poussera la sensibilisation plus loin en invitant une spécialiste du zoo à son congrès, à la Mimi. On lui offre un kiosque gratuitement parce qu'on croit à la cause, pour qu'elle puisse répondre à toutes les questions, puis peut-être donner une petite formation, indique la directrice générale de l'association, Marie-Claude Bouchard. Les Martinets de Martinville. Le village de Martinville, à 1h15 en voiture à l'est de Granby, a préservé son ancienne église en y aménageant des espaces de loisirs. La cheminée, toutefois, inquiétait les assureurs qui pressaient la municipalité de la démolir. Un entrepreneur s'apprêtait à le faire à l'été 2023 lorsqu'un bénévole a aperçu des martinets ramoneurs. Réparer la cheminée coûtera cependant près de 70 000 $, beaucoup plus que les 20 000 $ prévus pour la démolir. Pour un village de moins de 500 habitants, c'est énorme. Le zoo de Granby a donc décidé d'appuyer le projet en demandant des subventions auprès de Québec et de divers organismes de conservation. Et Martinville, qui avait déjà prévu aménager une halte paysage associée à un oiseau aux abords du village, a tout naturellement choisi le martinet comme emblème. Tout est relié. C'est spécial. On était vraiment contents, dit la directrice générale de la municipalité, Julie Letourneau. C'était « Protéger les martinets ramoneurs, une cheminée à la fois ». Un texte d'Ariane Kroll, paru le 22 avril 2024 dans La Presse.